Une grande consultation publique sur l'eau à l'échelle du bassin Loire-Bretagne est lancée. Donnez votre avis en tant que citoyen jusqu'au 18 juin. Pour contribuer à une vision d'avenir pour l'eau, l'association SOS Loire Vivante ERN France vous informe. L'eau est un bien commun à partager, mais les quantités disponibles varient selon les années, les saisons et les endroits. Aujourd'hui, le défi est de s'adapter au changement climatique et aux épisodes de chaleur, sécheresse et inondations de grande ampleur que l'on nous annonce. Les hommes doivent s'organiser et anticiper. Nous vous proposons aujourd'hui deux rencontres, la première avec Pascaline Cousin de l'Adréal Centre et la deuxième avec Jacques Seimert, président de l'association Sauvegarde de la Loire-Angevine.
Pascaline Cousin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes adjointe au chef du service Loire, bassin Loire-Bretagne de l'Adréal Centre. Alors avant tout, qu'est-ce que l'Adréal ?
L'Adréal est un service du ministère de l'Environnement en charge, entre autres, de la politique de gestion de l'eau. Donc l'Adréal Centre a une compétence sur l'ensemble du bassin Loire-Bretagne et elle assure le secrétariat technique des missions dévolues au préfet coordonnateur de bassin qui prend toutes les mesures de gestion de l'eau sur le grand bassin Loire-Bretagne.
Alors face à ces défis, ces manques d'eau qui risquent d'arriver, pour que chacun ait de l'eau, il faudrait donc d'abord revoir nos besoins et favoriser les économies d'eau.
Oui, tout à fait. La première mesure à développer en matière de gestion de l'eau est sûrement celle des économies d'eau. Et pour faire ces économies, il y a deux choses à faire. Tout d'abord, il s'agit de revoir nos besoins afin d'éviter tout ce qui est gaspillage d'eau, mais également de rechercher une meilleure efficacité de l'utilisation de l'eau.
Alors quel genre justement de solutions, de nouvelles pistes peuvent être envisagées, envisageables ?
Différents types de pistes sont envisageables en termes de recherche du moindre gaspillage d'eau. On peut citer par exemple pour les collectivités tous les travaux qu'elles peuvent mener sur les réseaux d'eau potable. Aujourd'hui, on sait que ces réseaux d'eau potable ne sont pas toujours forcément très efficace, qu'il y a des pertes en ligne finalement dans les tuyaux. Mmh. Donc toutes les actions qui visent à identifier où sont ces pertes en ligne, puis à résoudre les problèmes en intervenant, sont des mesures qui permettent d'économiser l'eau. D'autres mesures sont également envisageables pour économiser l'eau et surtout pour garantir une meilleure efficacité d'eau. Par exemple, l'irrigation en période d'été, qui se fait de préférence le soir pour éviter l'évaporation. Voilà. Et puis enfin, on peut citer toutes les économies d'eau que font l'ensemble des citoyens par des mesures responsables qui visent à fermer les robinets ou récupérer quelquefois l'eau de pluie pour faire de l'arrosage dans son jardin.
Et mettre également des économiseurs d'eau sur les robinets ?
Exactement. Mmh. Tout ce type d'intervention joue en faveur des économies d'eau. Et aujourd'hui, on observe d'ailleurs une baisse légère, tendancielle, de la consommation d'eau qui est due tant à l'optimisation des réseaux, donc ce que je citais précédemment, qu'à une consommation peut-être plus sobre de la part des ménages.
Alors une fois qu'on a réalisé ces économies d'eau et qu'il n'y a toujours pas assez d'eau pour tous les usages, on parle d'augmenter les ressources en eau. Comment fait-on pour augmenter les quantités d'eau disponibles ?
On parle d'augmentation des ressources en eau, mais en réalité, il s'agit d'une facilité de langage et d'un abus de langage. Par augmenter les ressources en eau, on entend plutôt optimiser l'utilisation de l'eau sur une longue période, par exemple sur une année, en prélevant dans les milieux de l'eau lorsqu'elle est plus abondante pour la stocker, pour ensuite l'utiliser en période sèche. Donc en réalité, on n'augmente pas la quantité d'eau disponible, mais par contre, on l'augmente au moment où elle est en manque, c'est-à-dire pendant la période sèche.
D'accord. Et ce n'est pas contradictoire avec le cycle de l'eau stockée quelque part et de l'eau perdue ailleurs ?
Effectivement, l'eau stockée quelque part est toujours de l'eau perdue ailleurs, on ne crée pas de l'eau, donc tout est une question de mesure.
Alors est-ce que stocker l'eau l'hiver dans des retenues vous semble une bonne solution ?
Donc je dirais qu'il n'y a pas de réponse a priori simple, définitive et qui s'applique dans tous les cas à cette question. Stocker l'eau l'hiver dans des retenues pour l'utiliser l'été peut être une solution pour pallier le manque d'eau pendant l'été, mais seulement sous certaines conditions. Et il faut notamment veiller à ce que ces prélèvements hivernaux ne soient pas préjudiciables au milieu et à leur vie. Il y a aussi une question de coût. Il faut estimer si le jeu a à voir la chandelle, notamment par rapport à d'autres solutions comme de nouvelles économies d'eau.
Et sur les pratiques agricoles, ce genre de choses ?
Les réflexions sur les pratiques agricoles et les choix de culture doivent, dans tous les cas, participer à la réflexion générale sur l'adaptation au changement climatique et sur les questions d'économie d'eau. et car il faudra sans doute marier différentes solutions, des solutions d'économie d'eau, y compris via des changements de type de culture par exemple, et des solutions d'optimisation d'utilisation de la ressource en eau, afin de relever le défi du changement climatique.
Alors pour stocker l'eau, les milieux naturels et aquatiques n'ont-ils pas également leur rôle à jouer, on pense aux zones humides ?
Oui, tout à fait. Les zones humides jouent un rôle majeur dans la régulation des milieux aquatiques et dans la régulation de la quantité d'eau. Et d'ailleurs, le SDAJ Loire-Bretagne, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux sur lequel va à nouveau débattre le comité de bassin, promeut d'ores et déjà la protection des zones humides et des champs d'expansion de crues.
L'aménagement du territoire peut-il jouer un rôle pour la gestion quantitative de l'eau ?
Alors oui, en matière de gestion du risque d'inondation, l'aménagement du territoire est un axe d'intervention publique très important et c'est sûrement un axe d'intervention qui est à renforcer. Car il faut sûrement d'abord faire la place à l'eau, notamment en préservant les champs d'expansion de crues pour pouvoir faire en sorte que les inondations s'écoulent dans les milieux qui ont été petit à petit contraints par l'homme. Et d'autre part, sur les zones urbanisées qui sont aujourd'hui en zone inondable, il faut développer des politiques d'aménagement du territoire qui permettent de faire en sorte que le renouvellement urbain favorise un urbanisme qui soit plus adapté aux inondations et qui permette, après un événement, le retour à la normale le plus rapide possible.
Pouvez-vous nous donner des exemples concrets d'actions publiques qui réduisent le risque d'inondation ?
Donc, différentes initiatives existent d'ores et déjà sur le territoire. On pourrait citer le cas de la ville de Blois qui a été amenée à reconquérir tout un territoire qui avait été urbanisé et qui se trouvait dans une zone inondable sur un secteur dit d'écoulement préférentiel des eaux. Donc c'était un secteur qui était très important pour permettre l'évacuation des eaux en période d'inondation. La ville de Blois, avec l'État, a été amenée à aller reconquérir ce territoire-là pour détruire finalement les habitations sur place et rendre ce territoire libre pour permettre l'écoulement des eaux lors des crues de la Loire. Donc ça, c'est un exemple d'action extrêmement volontariste. C'est une solution qui, politiquement, peut être très très lourde à mener parce qu'elle est très difficile à décider. Mais c'est une politique qui permet de mieux gérer le risque d'inondation et de concevoir une ville qui soit mieux adaptée à la présence de ce risque.
Et des exemples d'actions concrètes toujours qui permettent de stocker l'eau ?
Pour stocker l'eau, la première action concrète, c'est celle qui consiste à préserver tout ce qui est champ d'expansion de crues, qu'il s'agisse de zones humides ou de zones qui ne sont pas nécessairement humides. Donc toutes les actions qui visent à maintenir l'urbanisation en zone inondable, on va dire dans l'enveloppe qui est aujourd'hui occupée, est une action qui contribue à permettre le stockage de l'eau au moment de la crue. On a d'autres mesures qui visent à maintenir, on va dire, une activité agricole en zone inondable, qui sont également des mesures qui favorisent un stockage de l'eau en période de crue, puisque lorsque on aura des champs, on aura des espaces vierges, donc qui permettront de faire plus facilement tampon que des espaces urbanisés sur lesquels les sols auront été artificialisés.
C'est vrai que quand on voit par exemple la vallée du Rhône, c'est certainement une catastrophique pour le système de l'eau.
Je ne me permettrai pas d'apprécier la vallée du Rhône sur le bassin de Loire-Bretagne.
Ça marche. Alors d'autres choses qui peuvent être faites, donc en agriculture, il y a aussi peut-être des plantations de haies, c'est maintenir des arbres, éviter que les eaux ne ruissellent trop vite vers les rivières.
Oui, alors toutes ces actions ont un effet qui est positif, mais par contre, il faut bien avoir en tête que ces effets-là de plantation de haies ont un impact qui reste limité et un impact qui reste sensible uniquement pour les phénomènes d'une intensité limitée. Lorsqu'on aura un orage extrêmement rare mais extrêmement violent, ce n'est pas la plantation de haies qui permettra de retenir l'eau sur les secteurs agricoles et qui permettra de ralentir l'onde de crue. Ce sont des solutions qui ont un intérêt, mais cet intérêt reste limité pour des phénomènes d'intensité faible.
D'accord. Donc c'est vraiment le maintien des zones humides et la possibilité au fleuve de s'étaler qui est le plus important.
Exactement. Et pour tout ce qui est submersion marine, dont on parle de plus en plus avec l'élévation attendue du niveau de la mer due au réchauffement climatique, là aussi il faut avoir une vraie stratégie d'implantation des activités humaines en bord de mer afin de faire à nouveau la part de l'eau et de laisser dans certains cas des zones pour permettre à la mer de venir éroder les côtes et puis à l'inverse, dans les secteurs déjà urbanisés, adapter l'occupation du sol pour rendre l'urbanisme plus résilient, comme on dit, aux inondations.
Aujourd'hui, les hommes continuent d'apprendre à vivre avec les crues et les inondations. Est-ce qu'on peut dire que les erreurs d'hier créent les solutions de demain ?
Ben oui, en tout cas, il faut l'espérer, hein. Même si c'est loin d'être évident, car il n'est jamais facile de revenir sur une pratique qui est quelquefois extrêmement ancienne.
Pouvez-vous nous donner un exemple d'aménagement catastrophique en zone inondable qui a donné lieu à des plans de gestion qui fonctionnent bien actuellement ?
Ben, à ce jour, les derniers événements marquants sur le bassin Loire-Bretagne en termes d'inondation sont sûrement les événements liés à la tempête Xitia. Ces événements, ils ont donné lieu à des prises de conscience. Car force a été de constater qu'un certain type d'urbanisme implanté en bordure de côte n'était pas du tout adapté à la présence de ce risque de submersion marine. Par exemple, des lotissements avec des pavillons de plein pied derrière une digue qui peut céder. On sait aujourd'hui que c'est une solution complètement inadaptée face au risque d'inondation.
Et en particulier face au risque de changement climatique.
En particulier face au risque du changement climatique. Mais même derrière une digue, le risque est très important. Et en fait, la conscience du risque, elle s'amenuise parce que la digue apporte un sentiment de protection. Alors que la digue, comme tout ouvrage, peut être amenée à être dépassée par un événement qui est plus fort que les événements connue par le passé pour lesquelles elle a été dimensionnée.
Finalement, comment fait-on pour mieux prendre en compte le changement climatique dans la gestion de l'eau ?
Bien, en fait, c'est un débat que devra avoir le comité de bassin, notamment dans le cadre de la révision du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux actuelles. Mmh. Et il s'agira de prendre des orientations nouvelles sur le sujet pour définir des mesures de gestion de l'eau afin de nous adapter au changement climatique.
C'est-à-dire avoir des lignes claires. Est-ce qu'on a vraiment les données sur le changement climatique, sur ce que ça va apporter ?
Alors, on a des informations sur certains aspects qui sont relativement clairs, notamment sur la question plutôt des sécheresses. On sait d'ores et déjà que les périodes de sécheresse à l'avenir, elles seront plus longues, plus fréquentes et plus intenses. Donc là-dessus, en termes de gestion quantitative de l'eau, il est évident qu'il faut s'adapter pour demain être en mesure d'avoir un fonctionnement adapté à ce contexte-là.
Et après, est-ce qu'il y a des données sur le fait, sur ces épisodes violents là qu'on nous promet en matière de pluie très forte à certains moments de l'année ?
Sur les inondations, en fait, il faut faire la distinction entre les inondations dues aux submersions marines et celles dues aux crues de cours d'eau. Sur les submersions marines, on sait que là aussi, on aura des événements plus fréquents, notamment du fait de l'élévation du niveau d'eau. Donc, on va dire le niveau de référence sera dès le départ plus haut, donc même avec des phénomènes de la même intensité qu'aujourd'hui, on sera amené vraisemblablement à submerger plus régulièrement les terres qui sont aujourd'hui complètement hors d'eau. Donc ça, c'est pour les submersions marines. Pour les crues des cours d'eau, aujourd'hui, on n'a pas d'éléments complètement fermes et définitifs sur les conséquences du changement climatique. On a quelques éléments, mais ils sont partiels. Par exemple, on sait que l'on peut s'attendre dans le futur à avoir des phénomènes cévenols plus violents. Les phénomènes cévenols, ce sont ces orages qui viennent de la Méditerranée et qui éclatent, comme leur nom l'indique, sur les Cévennes. Ce sont des phénomènes extrêmement violents qui donnent lieu à des crues torrentielles, notamment sur l'amont du bassin de la Loire et sur l'Allier. Donc ces phénomènes-là, on sait qu'ils sont attendus de manière plus fréquentes et sur l'ensemble de l'Europe, donc y compris en dehors de leur domaine historique qui était plutôt le haut bassin de la Loire et de l'Allier sur le bassin Loire-Bretagne.
Est-ce que l'ADREAL arrive à faire passer ces messages ? Comment le reçoivent les différents partenaires ?
L'ADREAL participe à l'ensemble des débats, notamment au sein du comité de bassin, comme l'ensemble des usagers, l'ensemble des collectivités, c'est un des représentants de l'État, donc le débat a lieu au sein du comité de bassin. C'est un débat en général extrêmement riche avec différents acteurs qui apportent chacun leur point de vue sur la problématique. Je pense que sur les questions du changement climatique, l'ensemble des acteurs est assez sensible à la problématique et on sait collectivement que c'est un sujet sur lequel il faudra travailler dans le cadre du prochain SDAGE.
D'accord, donc c'est une prise de conscience qui avance et maintenant reste à trouver un consensus et des solutions qui arrivent à contenter tout le monde.
Oui, ensuite toute la question est celui du niveau auquel on place le curseur en fait. Des solutions, on en connaît certaines, notamment sur les économies d'eau. La question ensuite c'est de savoir comment on fait ces économies d'eau et quelles sont les contributions apportées par chacun des acteurs, les industriels, les collectivités, les particuliers, les agriculteurs, etc., etc. Tous ces gens sont des membres du comité de bassin. Le débat doit permettre de faire émerger un consensus sur l'effort qui sera demandé à chacun.
Merci beaucoup, Pascaline Cousin.
Merci à vous.
Au revoir. Alors au sein du réseau Loire Vivante, l'association Sauvegarde de la Loire Angevine milite et agit pour l'environnement et les milieux aquatiques. Jacques Zemert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de l'association Sauvegarde de la Loire Angevine. Alors vous avez constaté que les quantités d'eau prélevées en Loire pour l'irrigation agricole du Val d'Authion, près d'Angers, sont beaucoup trop importantes. En quoi ces prélèvements d'eau en Loire portent préjudice à l'environnement et au système hydrique de la Loire ?
Bien, d'une manière générale, les besoins en eau pour l'irrigation ont toujours lieu l'été, c'est-à-dire au moment où les rivières sont au plus bas. Les prélèvements d'eau pour l'irrigation de la vallée d'Authion, il en existait déjà depuis longtemps. Et puis, à partir de 2005-2006, était lancée une grosse opération qui consistait d'une part à faire une nouvelle station de pompage en Loire et d'autre part à mettre en place dans la vallée proprement dit un réseau de distribution d'eau sous pression destiné, soi-disant, à remplacer les prélèvements d'eau par des forages profonds dans le Cénomania. Donc on est passé, après des solutions alternatives différentes, à des débits qui correspondent actuellement au maximum à 3,3 mètres cubes par seconde en plein été. Alors c'est peut-être pas très clair pour en valeur absolue, mais ce qu'on peut dire, c'est que si l'on compare ce débit de 3,3 mètres cubes seconde à ce qui est consommé par l'agglomération angevine, qui comporte environ 270 000 habitants, il est seulement de 2 mètres cubes par seconde. Donc, l'on va consommer beaucoup plus d'eau pour l'irrigation que pour une agglomération en eau potable de 270 000 habitants.
Alors, quelles sont les conséquences de cette captation sur la qualité de l'eau et du système hydrique ?
Les conséquences sont variables selon que l'on est avec un débit plus ou moins important dans la Loire, parce que le débit de la Loire, c'est quand même quelque chose qui peut varier pour les très grandes crues de 6 000 mètres cubes par seconde à 52 mètres cubes par seconde.
Oui, donc c'est l'été que ça a les plus grandes conséquences, et c'est l'été en plus que l'agriculture pompe cette eau.
Exactement.
Alors, quelles sont les conséquences ?
Les conséquences, c'est que d'une part, on va participer encore en plus à la diminution du débit d'eau dans la Loire, et d'autre part, on va surtout transférer dans un bassin de culture, l'irrigation, qui va lessiver des excès d'engrais, de pesticides, etc.
Donc c'est une concentration des pollutions.
Concentration des pollutions dans le bassin de l'Authion, qui est le bassin irrigué par cette eau que l'on trouve dans la Loire.
D'accord. Alors vous avez parlé également d'une nappe profonde du Cénomania. C'est une eau fossile qui est présente depuis plus de 90 millions d'années sous la Terre.
Oui.
Alors quelle est la problématique autour de cette nappe ?
Le Cénomania est considéré et réservé dans le cadre du stage comme étant un usage prioritaire pour les eaux potables. C'est une réserve pour préparer l'avenir finalement. Et il est formellement interdit normalement de pomper dans le Cénomania pour tous les autres usages sauf l'eau potable. Or, en l'occurrence, l'irrigation est faite en partie par des pompages profonds dans le Cénomania.
D'accord, donc là on se retrouve dans un conflit entre l'usage pour l'agriculture et pour les besoins d'eau potable.
Oui, un conflit qui provient finalement d'un manque de rigueur dans la gestion de l'ensemble du système. Un manque de rigueur dans ce qu'on consomme en prélèvement superficiel, manque de rigueur de ce qu'on pompe en nappe profonde. En fait, c'est un système qui a été mis en place, la technique du toujours plus, l'agriculture a toujours plus de besoin d'eau.
D'accord.
Ce qui n'est pas tout à fait justifié. On peut dire deux mots sur ce sujet d'ailleurs.
Oui.
Parce que on a tout fait de dire aux gens que l'agriculture a besoin d'eau. Nous ne sommes pas fondamentalement contre l'eau pour l'irrigation, mais il faut utiliser cette eau pour des cultures à forte valeur ajoutée, et dans le cas de l'Authion, de la vallée d'Authion, c'est les cultures du genre porte-graines, semences, etc. Il faut en même temps utiliser cette eau avec des techniques d'irrigation économes, le goutte à goutte dans certains cas, l'utilisation et l'arrosage plutôt la nuit qu'en plein été à 14h. Et puis surtout, il faut changer un certain nombre de pratiques culturales. Parce que cultiver du maïs fourrage dans la vallée de l'Authion et l'irriguer pour qu'il pousse, ça frôle le scandale. Parce que là, on gâche de l'eau. Et c'est pas par hasard que, actuellement, d'après le ministère de l'Environnement, 48% des volumes prélevés dans les rivières sont destinés à l'irrigation. Le reste n'étant que pour des usages domestiques, industriels ou production d'énergie.
Donc il faudrait changer un peu les pratiques culturales.
Ah, tout à fait. Alors là, c'est d'autant plus scandaleux, si vous voulez, que l'avenir risque de nous mettre face à des périodes de sécheresse et que la culture irriguée du maïs, on marche à l'envers. Alors il y a des solutions, hein, et en particulier, on a un exemple assez extraordinaire dans la région angevine, c'est que la Chambre d'agriculture a une ferme expérimentale. Dans cette ferme expérimentale, en 2010-2011, ils ont procédé à la culture de mélange de céréales protéagineux immatures, de sorgho et de luzerne, afin de fournir des aliments de remplacement au maïs.
Ce sont des plantes qui sont moins consommatrices d'eau.
Ces produits aujourd'hui sont moins consommatrices d'eau, entre autres le sorgho, qui est un consommateur d'eau aussi, mais pas du tout à la même période de la pousse. Le sorgho a besoin d'eau plutôt au printemps, là, quand il y a encore de l'eau dans les rivières, alors que le maïs a besoin d'eau plutôt au mois de juillet et surtout d'août, là où il y a le moins d'eau dans les rivières. Alors, ces solutions alternatives, finalement, qui ont été expérimentées, les conclusions de la Chambre d'agriculture, donc on ne peut pas nous faire de procès d'intention, sont assez extraordinaires et je me permets de vous les lire parce que je ne voudrais pas trahir la pensée de cela. Écrit purement et simplement, après une expérimentation testée sur les vaches laitières, nous obtenons de très bonnes performances zootechniques, quoique un peu inférieures à une ration 100% maïs en silage, mais nous restons à des niveaux de production élevés.
D'accord.
Il convient dès maintenant de préparer l'avenir en s'orientant vers de nouvelles pratiques culturales qui conduiront à une moindre consommation d'eau.
Cette irrigation, elle est importante. Dans des mêmes périodes où le maïs pousse encore, les citoyens se voient interdire l'arrosage de leur pelouse en plein après-midi. Alors comment réagissent-ils ?
C'est assez courant ça. En juillet 2011, le débit au point nodal de Mont-Jean est descendu à 100 mètres cubes par seconde. 100 mètres cubes par seconde, débit de crise, et interdiction absolue de prélèvement d'eau pour tous les usages, sauf pour l'eau potable.
D'accord. Est-ce que ça a un coût, le prélèvement de l'eau pour l'irrigation ? Ça a un coût public, majoritaire ? Et qui soutient ces coûts ?
L'investissement qui a été fait pour faire la station de pompage à Saint-Martin-de-la-Place, plus la mise en place des tuyaux pour irriguer toute la vallée de l'Authion, etc., ça représentait un coût de 17,5 millions d'euros. Alors vous allez dire, qui a payé ? Grosso modo, il y a 70% du financement qui a été assuré par les collectivités territoriales, départements, régions, fonds européens, États. C'est donc finalement le contribuable qui participe à un investissement considérable qui, pour la mise en place des pompages sous tuyaux, concerne 60 exploitants.
Donc c'est quand même sur votre vallée, comme dans d'autres, une réflexion qui a mené sur le modèle agricole qui est un petit peu dépassé.
Tout à fait. Pour reprendre une expression que j'aime bien, il faut de temps en temps monter sur un tabouret pour voir les problèmes de plus haut. Et se dire, on a des problèmes en ce moment parce qu'il fait chaud et il suffit d'augmenter l'irrigation pour pouvoir cultiver le maïs, c'est vraiment nier l'avenir. Et c'est là qu'est le drame, c'est que le réchauffement climatique actuellement, il y a quand même, de la part des milieux scientifiques compétents, un accord général pour dire que à l'horizon 2100, la température du globe sera de l'ordre de plus 4 degrés, voire, disent les plus pessimistes,
plus
6 degrés. Et ça va donc se traduire surtout par des épisodes climatiques atypiques. Vraisemblablement, et là, un grand manque de connaissances scientifiques, c'est que ça va se traduire par des moments de très forte chaleur et sans doute par des moments de très forte pluviométrie.
Des épisodes violents, donc ce qui fait qu'il sera difficile d'avoir des rivières avec un cours plus ou moins constant. On va se retrouver avec des rivières à sec en certaines périodes et qui débordent largement dans d'autres.
C'est ce à quoi il faut s'attendre sans qu'on puisse être en mesure actuellement scientifiquement de définir ces irrégularités.
En tout cas, pour l'instant, la ressource en eau, et en particulier donc des nappes souterraines, est à protéger impérativement.
Ah oui, totalement, d'autant plus à protéger que la consommation de phytosanitaires est toujours excessive en France, avec quel est le bilan au niveau international. Je crois qu'on doit être le deuxième ou le troisième consommateur de phytosanitaires pour un espace relativement restreint. Donc la pollution vient accentuer finalement la dégradation de la qualité de l'eau, qui est un élément fondamental.
Est-ce que pour vous, une solution pour votre bassin comme pour d'autres serait de changer la PAC, justement ? Alors la PAC, on rappelle, c'est la politique agricole commune, et donc qui subventionne certaines cultures, et actuellement donc le maïs.
Il faut changer les pratiques culturales, et sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, c'est aussi un changement culturel des agriculteurs. Alors certains l'ont compris, je fais exception pour l'agriculture bio qu'on a anticipé depuis longtemps, mais un certain nombre d'agriculteurs ouverts sur l'avenir ont commencé déjà à changer ses pratiques culturales en disant avant j'étais à 90% en maïs, je vais revenir à la prairie naturelle pour 50% et je poursuis avec 50% ou 45% de maïs. Il faut encore aller plus loin et revenir sur l'utilisation de sorgho, de luzerne. La luzerne, c'est un végétal extraordinaire qui était en vogue 50 ou 70 ans et qui est complètement tombé en désuétude maintenant.
Jacques Zemmert, merci. Bonne continuation dans vos combats pour défendre ce système hydrique du Val d'Authion.
Nous essaierons de défendre la bonne cause.
Parce que votre avis compte, participez à une consultation publique sur l'avenir de l'eau et des milieux aquatiques en répondant au questionnaire à votre disposition sur le site internet prenonssoindelleau.fr. Cette émission vous a été proposée par SOS Loire Vivante ERN France avec le soutien de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne.